Daiquiri.
L'émission LGBTQ transpé des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Bonjour.
Bonjour. Oh. Bonjour.
Je suis fort.
Que de basse, Gwen.
J'ai gagné. Pourtant, j'ai gagné en testo avec tes vacances.
Ah ouais, c'est vrai, c'est l'apport de 2024, plus testostéroné. Bonne année.
Bonne année.
Bonne année, justement, vous, première émission de 2024 pour Daiquiri, votre émission Trans-PD, Bigouin, etc., etc.
On est toujours là.
On va pas gouiner aujourd'hui. On a décidé, avec beaucoup d'amour, d'inviter dans nos studios des hommes qu'on affectionne beaucoup et qui vont aborder avec nous une thématique qui nous intéresse depuis un petit paquet de temps.
La famille,
le lien et comment on fait relation ensemble. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la parentalité alternative, on peut appeler ça comme ça, peut-être. Comment faire famille autrement, disons-le comme ça, pour le dire simplement. On mettra peut-être des mots un petit peu plus
mais là, c'est juste pour
philosophiques au fur et à mesure de l'émission. Pour cette première émission de 2024, j'allais dire 2023, on a la chance donc de recevoir un couple de papas. Je peux vous appeler comme ça ?
Ah oh oui ?
Oui.
Je vais vous demander les papas, oui, peut-être si vous voulez bien, avant qu'on se fasse la petite pause musicale de rigueur et de début d'émission, des petites présentations, si vous voulez bien nous dire quelques mots de vous au micro.
Alors moi, je suis Frédéric, j'ai 46 ans et je suis le papa de deux enfants, Sacha qui a 7 ans et puis Sophia qui a 4 ans. Que j'embrasse d'ailleurs.
S'ils voilà. Écoutent.
Je suis marié à Sylvain.
Et donc Sylvain, c'est moi. J'ai 39 ans et je suis le dada de Sacha et Sophia.
Papa et dada, bienvenue à vous dans Daiquiri. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous pendant une heure pour discuter de comment ça se fait, comment ça s'est fait, comment ça se passe, votre parentalité à vous, une parentalité qui vous ressemble, puisqu'on a tous des parentalités qui nous sont propres. C'est un peu l'idée derrière cette émission. Je te laisse le choix de la première musique, chère Gwen, puisque tu as fait beaucoup de recherches pour cette thématique et tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu voulais nous faire écouter ce soir et en cette fin d'après-midi.
Ah, du coup, tu veux commencer sur sur la thématique, donc forcément, je suis sorti ma chanson un peu cringe et un peu française.
Je pensais pas que t'allais mettre celle-là dès le début, mais vas-y.
C'est la vraie qui a un lien. Les autres, c'était un peu des. Mais bon, autant commencer par ça. C'est une chanson que j'ai trouvée pendant mes recherches, parce qu'on aime bien trouver quand même des chansons en thème avec de quoi on va parler. Et je suis tombé sur une chanson française, ce que je n'écoute pas du tout, chantée par Aldebert, que je ne connaissais pas, et du coup Calogero.
Calogero, je ne sais même pas prononcer les mots de la variété.
Tellement j'écoute pas les trucs français. Mais ce qui m'a touché, alors la chanson est mignonne, même si c'est pas ce que j'écoute, mais j'ai trouvé le cadre de création.
Alors c'est pareil que comme quand on dit quelqu'un est gentil, hein, la chanson est mignonne. Moi,
non,
pour moi, c'est la même chose.
Non, parce que mignonité, c'est mignon.
Voilà.
Donc en fait, l'idée est venue par Aldebert, qui a sorti ça en 2021, juste avant le vote de la loi sur la bioéthique, donc où il y avait le vote de la PMA dedans, qu'on vous a déjà parlé avec Daiquiri. Et en fait, sa femme est médecin et connaît du coup un autre médecin qui est gay, qui a eu un enfant en GPA. Et il l'a rencontré, il lui a raconté son histoire, ça l'a ému, et du coup, il a fait cette chanson en duo. Je ne sais pas s'il est très connu, Aldebert, mais du coup, Calogero, je pense, est plus connu que lui. Et je trouve ça bien d'avoir fait, en plus, dans ce cadre un peu, alors je ne sais pas si c'était volontaire, j'espère, mais de faire ça juste avant ce vote d'une loi qui a été votée, qui a été importante, parce qu'elle nous a permis d'ouvrir des droits pour beaucoup de personnes de notre communauté, même si tout le monde n'a pas été inclus dans la loi encore, hélas. On espère que ça arrivera cette année.
En 2024.
On n'y croit pas trop, mais on espère. Donc voilà, on va dire, au moins ça donne de la visibilité dans le grand public, et ça peut-être fait du bien à des personnes de couple homoparental d'avoir une chanson qui parle d'eux, parce que c'est toujours bien d'avoir des chansons qui parlent de nous. Donc je vous laisse l'écouter. J'ai pas les titres, donc...
Double papa.
Voilà, double papa.
Ouais, je crois qu'on peut pas faire plus clair.
C'était pas très dur, mais voilà. Donc...
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour. Nous sommes tes ailes, deux papas pour toi, deux îles sans ailes, on s'est battu pour ça. Apollo résonne quand sur terre tu poses le pied. Un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité. Enfin nous voilà, famille, si fière, ma chère, tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, père, un double papa. Ça va de pair, rien ne nous atteint quand la tendresse opère. Laisse le feu des débats attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même. Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs, de volcans dans la purée et de sauts dans les flaques. On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole, ce cœur avec les deux mains. Fenêtre des écoles. Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère, tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa.
Cette photo de famille, tes deux grands-mères te regardent entrer dans la vie. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères.
Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère, tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à
je vois ta tête
transparent.
Dépitée.
À ce point. Oui, bon, j'aime pas la chanson
voilà,
française.
C'est, fait,
c'est mon truc.
Ouais,
c'est
mais
tout,
non plus,
c'est
j'aime
pas,
pas mais...
c'est pas grave.
Voilà, c'est fait.
Bonjour, vous écoutez Radio Primitive. On vous passe de la soupe. C'était Calogero. Génial, deux papas. Double papa, pardon. On parle parentalité aujourd'hui sur Daiquiri. Et justement, on a des invités pour nous parler de leur expérience de la parentalité. Sylvain et Fred, vous êtes avec nous pour nous parler de vos pitchounes, mais pas que au final, hein, de votre rôle aussi, de dada et de papa. Peut-être que pour remonter dans cette histoire de parentalité qui a maintenant quelques années pour vous, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de l'émergence de cette question de la parentalité dans votre couple ou pour vous personnellement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une évidence?
Alors moi, j'ai laissé Fred répondre parce que c'était pas une évidence pour moi, mais c'en était une pour lui.
Alors moi, ça a été une évidence depuis mon enfance, je crois. C'est-à-dire que mon premier enfant était ma petite sœur. J'ai une histoire qui m'a amené à prendre des responsabilités, une autorité parentale assez tôt. Et puis ensuite sont venus les enfants de mes amis. Mes amis ayant pris une place de famille pour moi. Et tous ces enfants qui sont nés, je suis devenu leur parrain. Aucun n'a été baptisé. Je suis devenu le parrain officieux. J'avais besoin de participer à leur, indirectement à leur éducation.
Déjà, ce rôle-là, ça te plaisait ?
Oui, et je crois qu'il y a quelque chose d'inné. Il y a quelque chose dans le soin, le prendre soin de l'autre. Voilà. Et Sylvain, l'approche était un petit peu différente.
Ça s'est posé vite dans votre relation, à vous deux, ton envie, toi, peut-être d'avoir des enfants, et Sylvain, peut-être tes craintes ?
Alors, déjà, on a une différence d'âge qui fait peut-être qu'on n'avait pas les mêmes envies au même moment, automatiquement. Donc c'est quelque chose que moi, je pense, j'avais besoin de mûrir. Et c'est vrai que moi, j'étais pas convaincu et ça me semblait quelque chose d'un peu insurmontable et surtout d'un peu infaisable. C'est-à-dire que je pense qu'adolescent, je m'étais représenté le schéma type et à un moment, quand vraiment j'ai fait mon coming out, j'ai quelque part fait en même temps le deuil d'une vie, alors entre de gros guillemets, normale, on va dire, d'une vie...
parentale.
Parentale, exactement, ouais. Et bon, voilà, la rencontre avec Fred a changé la donne. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que, bon, nos enfants, donc le plus grand a 7 ans et nous, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose qui a pris son temps, mais je pense que c'est arrivé à un bon moment. Mmh. Même si moi, effectivement, c'était quelque chose qui m'effrayait beaucoup.
C'était quoi qui te faisait peur ? Tu veux bien nous en parler ?
Oui. Bah, je pense que j'avais peur de pas être à la hauteur. J'avais peur de pas savoir les aimer comme il faut. J'avais peur qu'ils ne m'aiment pas. On se crée tout un tas de complications quand on va être parent. Mais je pense que beaucoup de gens, c'est le cas pour beaucoup de gens et d'ailleurs beaucoup de femmes dans notre entourage qui sont mères après coup, quand je leur ai parlé de tous ces questionnements, m'ont dit qu'elles les avaient eues elles aussi. Donc voilà, après c'est dommage, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout le temps, qu'on en parle après. On aurait pu en parler avant, ça m'aurait épargné beaucoup de questionnements. Mais non, après une fois que, voilà, quand Sacha est né, ça a été, pour moi, ça a été une révélation, ça a été un choc émotionnel.
Alors c'est le mot, hein, choc émotionnel, hein, puisque la naissance de Sacha, je peux raconter cette petite partie.
Vas-y.
Donc on était évidemment tous les deux présents, on a eu une chance, c'est que... la maman de Sacha et de Sophia a été prise en charge à la maternité de Château-Thierry, je vais la citer parce que ils ont été très très ouverts, donc ils nous ont permis d'assister et lorsque est arrivé le moment du pot à pot, donc j'ai démarré le pot à pot, ça dure à peu près une heure, venait le tour de Sylvain et j'ai vu Sylvain s'échapper de la salle et je l'ai vu tétaniser. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est ton tour maintenant. Et il est venu s'asseoir, crispé. Et quand il a pris Sacha enrubanné dans cette couverture contre sa peau, il s'est effondré. Hein. Et c'était juste un moment merveilleux. C'est-à-dire que finalement, c'est l'instant qui a défini sa paternité. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que cette révélation-là, quoi.
Oui, parce qu'au final, on la théorise, on a beau l'envisager, mais au final, c'est vrai que tant que les enfants sont pas là,
on sait pas.
On le vit pas.
On le vit pas.
Mmh. Ah, puis c'est trop cool que l'équipe technique ait permis, ce qu'ils auraient pu dire, non, c'est une seule personne qui accompagne, pas deux.
Ils ont été
Ça, franchement, c'est chouette, quoi.
Ah, oui. Ils ont été fabuleux. Ils nous ont permis ensuite de passer une nuit sur deux, donc pour être avec la maman et puis avec les enfants. Ils nous ont complètement intégrés à trois dans ce moment important de la paternité et de la maternité.
Ils nous ont même montré les gestes à chaque fois, les premiers gestes, prendre le bain, comment les nourrir, comment faire les biberons, comment leur faire les soins. Tout ça, ils nous l'ont montré à chaque fois en double, du coup, parce que vu qu'on faisait une nuit sur deux le premier matin, je crois que pour Sacha, c'était Fred à qui ils ont montré. Donc moi, il a fallu qu'il me remonte le surlendemain. Et tout ça, c'est fait avec une bienveillance à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Mmh. Ils ont été vraiment top.
Ah bah big up.
Big up à Château-Thierry.
Ah,
on ne savait pas, mais visiblement, Château a des bonnes recrues dans ses rangs à l'hôpital, donc dans la maternité, vous nous disiez.
Oui.
Justement, vous l'avez déjà un peu mentionné. On vous a aussi invité parce que votre parcours, il peut paraître atypique à certains et certaines. Votre parentalité, elle ne se conjugue pas qu'à deux, vous l'avez dit. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots là-dessus ?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai un petit peu anticipé. Alors, moi, j'approchais de 40 ans. Précisément, j'avais 39 ans et ça devenait insoutenable, l'idée de ne pas vivre, de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire de ne pas connaître le fait d'avoir moi-même des enfants. Effectivement, la question s'était posée de l'adoption. C'était une possibilité que Sylvain envisageait, c'était peut-être moins le cas pour moi, peut-être lié à mon éducation un peu plus traditionnelle, étrangement j'avais besoin finalement d'avoir un enfant, de le créer quoi, moi-même. Mmh. Et j'étais arrivé à un moment où tout aurait été possible, c'est-à-dire j'avais même envisagé, et c'est peut-être effectivement... oui, c'est peut-être décalé, mais d'aller en Inde et de payer une indienne, quoi, de donner de l'argent en fait. Hein.
Mm-hmm. L'adoption internationale.
Ouais, j'étais vraiment à ce stade-là. Sylvain, pour lui, c'était inconcevable. Il voulait absolument. Il a eu la voix de la raison. Il voulait absolument qu'une maman s'intègre dans dans ce projet et dans cette vie familiale. C'est Sylvain qui a eu le dernier mot, en fait, mm-hmm. puisque ça m'a poussé, j'irais, à être patient. Voilà.
Et cette maman, comment elle est arrivée dans votre vie, au final? Vous l'aviez rencontrée avant? Elle aussi, elle vous avait fait part de ses envies? Comment vous vous êtes dit, c'est toi?
Alors, c'est un peu particulier parce que la rencontre, la façon dont elle s'est faite, c'est par le biais de sites. De gens qui partagent ce même désir de coparentalité. Alors, pour poursuivre ce que Fred disait, c'est que, bon, moi, j'étais pas chaud, effectivement, pour aller en Inde faire un bébé, tout ça, ça me paraissait un peu de la science-fiction. Et c'est vrai que, moi, je l'envisageais vraiment. Je pense que, quelque part, ça me rassurait aussi, moi, de me dire qu'il y aurait une maman. Mais je crois que c'était aussi pour m'éviter tout un tas de questions futures pour mes enfants. Je voulais qu'ils aient toutes les réponses, enfin qu'ils aient toutes leurs cartes en main. Je trouve, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose de fondamental. Et je me disais aussi que nous, on est un couple d'hommes. C'est vrai que c'est du coup plus compliqué certainement pour nous d'avoir des enfants que pour un couple de femmes. Mais je me dis voilà, des femmes gays, des lesbiennes qui cherchent aussi à avoir des enfants, ça peut être une solution. Et la preuve. On est que ça en a été une pour nous. Mmh. Et donc voilà, on s'est rencontrés par le biais d'un site internet. Et bon, ça a été un petit peu compliqué au départ parce que ces sites ne sont pas très, très, très clean. Et c'est vrai qu'on envoyait des messages. Donc on va dire son nom, elle s'appelle Laura. On lui envoyait des messages. On a vu son profil, on a vu plein de profils. Mais son profil nous a tapé dans l'œil pour tout un tas de raisons différentes. Et
elle était déjà du coin au moins.
Oui.
D'accord,
oui,
parce que ça c'est important.
Il y avait une raison principale quand même. Elle ne posait aucun critère sur l'enfant. C'est-à-dire que, effectivement, sur ces sites, on rencontrait parfois des profils de femmes qui voulaient un enfant, mais qui cherchaient un homme avec les cheveux d'une certaine couleur, les yeux d'une certaine couleur.
Enfant parfait.
Ouais, c'était juste impossible, quoi. Voilà. Et là, c'était finalement ce qui nous a. Alors, il y avait la proximité géographique, mais il y avait ça. C'était qu'on sentait quelque chose, juste une envie d'être maman.
Voilà. Et donc voilà, et donc on a cherché à la contacter. C'était compliqué parce que pour qu'elle puisse lire nos messages, il fallait qu'elle paye. Or, elle n'avait pas payé d'abonnement, donc elle recevait pas nos messages. Et un jour, on en parle à la sœur de Fred. On lui montre le profil de cette fille. Elle dit mais attends, j'ai déjà vu quelque part. Je pense que sur Facebook, elle est amie avec une de mes amies. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est incroyable. Et c'est comme ça au final qu'on a réussi à rentrer en contact avec elle par le biais de la sœur de Fred qui était amie avec cette fille. Et on s'est rencontrés, on s'est vus plusieurs fois, on a énormément échangé sur la façon dont on voyait la parentalité en fait.
Oui, vos conceptions, vos valeurs aussi.
Tout à
je
fait.
Pense que c'est ça qui
oui.
est important dans oui. ces cas-là. Hein.
Oui, mmh. ah oui, c'est fondamental. Hein.
Et
c'est...
nous, se découvrir, savoir qui on était. Finalement, c'était important. Oui, qu'on ait la quasi-conviction qu'on pouvait vivre ce projet ensemble et on pouvait vivre finalement cette vie parce que finalement l'idée, c'était de devenir une vraie famille, tous ensemble.
Parce qu'il n'a jamais été question de se servir de Laura et de lui dire ensuite, bon, voici que s'arrête ta participation à notre projet. C'était pas du tout ça, même dès le départ.
Ah, pas du tout. Pas du tout, ça s'est vraiment fait... Enfin, nous, on est en garde alternée, c'était vraiment notre conception dès le départ, quoi. Que chacun ait sa part de parentalité, contribue au bien-être des enfants, à leur éducation, à la transmission des valeurs. C'était le postulat de départ.
L'oral était OK pour un enfant. Et puis après, vous avez voulu en avoir un autre. Ça s'est posé aussi de manière assez naturelle.
Dès le départ, l'idée de deux enfants, elle était là. Alors, comme je suis le plus vieux, du coup, effectivement, Sacha, je lui ai donné, entre guillemets, mes gamètes. Ça s'est fait très, très rapidement. C'est-à-dire que quand on a démarré le projet, on pensait qu'on s'était donné une année à peu près pour
faire des tentatives.
Voilà, pour faire des tentatives. Et finalement, la première tentative a été la bonne. J'étais à mon bureau. Le soir, on allait voir une chanteuse de fado qui s'appelle Anna Moura à l'Olympia. Et elle m'a envoyé un message. Elle te l'a envoyé aussi.
Oui.
Avec la photo d'un test de grossesse. Elle m'a dit, t'en penses quoi? Et là, bon, c'était juste un des plus beaux moments de ma vie.
Alors que pour moi, c'était une photo d'un test de gros stress.
De gros stress.
Ah, maintenant, c'est vrai.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour que nos auditeurs et auditrices aient aussi le temps de prendre toutes ces informations-là qui ne sont peut-être pas si abordables pour elles et eux. Peut-être qu'elles ne se sont pas encore posées, cette question de la parentalité que vous nous exposez aujourd'hui. Vous nous avez suggéré une petite chanson, toi Fred. Tu voulais écouter un morceau qui a un lien avec la parentalité. Si tu veux nous dire quelques mots sur Mano Solo, t'as toujours, c'est quelqu'un que tu apprécies de manière générale ou c'était par rapport à la thématique?
C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'écoutais beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a fait, me rendre curieux de la musique. Voilà.
Eh bien, on écoute Pas du gâteau.
Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de fioso, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents, dans les jours où c'est un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment enquêtera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir, même si la vie c'est pas du gâteau et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots pour leur gueule et tout haut. C'est pas du gâteau et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots pour leur gueule et tout haut. C'est pas du gâteau et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots pour leur gueule et tout haut. La vie c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau.
Pas du gâteau, c'est Radio Primitive dans notre émission Daiquiri, un titre de Mano Solo qui a trait à la parentalité. Nous sommes avec Fred et Sylvain, on parle de leur parentalité à eux, avec leurs enfants. Et justement, on a parlé, avant de se passer ce petit son de Mano Solo, de leur envie. De paternité initiale ou pas. On a parlé de la parentalité qu'ils avaient avec Laura, la maman qui les a rejoints dans cette aventure de parentalité. Et désormais, moi, j'aurais bien aimé aborder ce quotidien que vous vivez désormais avec vos enfants, puisque on le dit, votre parentalité, elle vous est propre avec Laura. Si ma mémoire est bonne, en plus, vous cohabiter, il y a une sorte de cohabitation. Comment ça se passe ?
C'est 5 à la maison, du coup.
En fait, on cohabite pas, c'est-à-dire pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a un terrain et on a chacun nos maisons qui sont séparées par des arbres. On a nos vies, notre intimité, mais c'est vrai qu'on est sur le même terrain, ce qui est fort pratique. Mais bon, ça fait partie du projet, quoi. L'idée, c'était quand même que de simplifier la vie des enfants aussi à ce niveau-là.
Et elle était ok aussi, elle, dès le départ, de dire je suis prête à vivre près de vous.
Bah après, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu quand même quelques déménagements entre temps.
Oui.
Avant de trouver le bon lieu.
Alors à la naissance, il faut savoir que on passait quasiment un mois ensemble. C'était important en fait pour les premières semaines des enfants. Je crois, naturellement, finalement, c'est une famille qui s'est composée au travers de nous trois, de Laura, de Sylvain et de moi. Et pas que nous trois, c'est-à-dire avec nos propres familles respectives et puis avec nos propres amis aussi respectifs.
Mmh. Oui. C'est vrai qu'aussi, on a la chance d'avoir des familles qui sont super cool, super open. Enfin, c'est... Voilà. Il n'y a pas de questions qui se posent, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de questionnement douteux ou de...
Il n'y a pas eu de remise en question de cette volonté de peut-être vivre sur un terrain, même si c'était peut-être pas super clair dans vos têtes dès le départ, cette façon de cohabiter et de faire parentalité.
Au contraire, je pense que ça a été, on s'est aperçu que peut-être, en tout cas moi j'ai toujours eu ça en tête, on vit dans un monde normalisé. Avec un papa, une maman et des enfants, même si évidemment c'est beaucoup moins le cas, mais c'est le modèle quand même dominant qu'on voit à travers les médias, qu'on voit à travers le voisinage, enfin à l'échelle locale, à travers les différents écrans, à travers la culture aussi, oui. Et on s'est dit que il fallait peut-être tout mettre en œuvre pour que cette différence qu'allaient vivre nos enfants pourrait peut-être être vécu plus facilement, ça puisse apporter un peu de souplesse, voilà. Mmh. Et donc là-dessus, tous les trois, on était complètement d'accord sur cette idée de, je dirais, de rapprocher la proximité géographique, allait contribuer, je dirais, à donner une forme à cette famille.
Mmh. Oui, parce qu'au final, déjà, quand on est un couple d'hommes comme un couple de femmes, on a souvent à se justifier dans la vie. Donc en plus, avec des enfants, ça double un peu cette justification aux yeux de la société. Et là, avec une troisième personne qui vient s'ajouter, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je me dis, vous avez dû en entendre des choses, vous avez dû peut-être vous créer peut-être une armure aussi, je sais pas, pour vous protéger de ce genre de remarques.
Alors, on n'a jamais eu de remarques. Après, automatiquement, ça génère, je pense, de temps en temps, des comportements où les gens, c'est vrai qu'ils sont pas habitués à ce type de famille-là. Donc automatiquement, voilà, il y a quand même quelques questionnements qui se posent. Mais en tout cas, nous, les retours qu'on en a eu de notre entourage proche n'a jamais été négatif. En tout cas, la démarche, même si elle était maladroite, elle a toujours été de nous accompagner, de nous soutenir. Ça là-dessus, de notre entourage proche, famille, amis, c'était très évident. Après, à l'extérieur, je dois dire qu'on n'a pas non plus... Enfin, on vit dans un village. On pourrait penser que les gens passent leur vie à nous mater et pas du tout, ou à être désagréables et pas du tout. Les gens sont très cool. Enfin, on n'a jamais de retour, quel qu'il soit. Après... Effectivement, peut-être que on se blinde et qu'on fait pas attention. Peut-être que je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre en pensant au regard des autres. Mmh. C'est pas du tout déjà mon truc à moi. Donc voilà. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs important pour les enfants qu'on ait pas ce poids-là, même inconscient pour eux, parce que les enfants, c'est un peu des éponges. Mmh. Donc qu'on vive les choses sereinement, quoi. Et je trouve que dans le village où on est quand même très 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 bien inclus. Il n'y a pas de questions qui se posent.
Quoi, parce que vous êtes clair aussi avec ça.
Oui.
C'est votre famille, vous êtes comme ça et vous ne le cachez pas. Oui. Et le fait de ne pas avoir le cachet ou le...
Bah, je pense que le fait qu'on ne doute pas de nous, du coup, automatiquement, les gens en face, on leur met certainement effectivement pas ce doute non plus dans la tête. Donc, et on ne laisse pas du coup aussi cette porte ouverte à des questions ou à des remarques, une forme d'intrusion en fait.
Et d'ailleurs, on est... Enfin, complètement intégré dans la vie, dans la société, dans cette petite vie locale hein, d'un petit village de 2000 habitants. Sylvain fait partie des parents d'élèves, par exemple, à l'école. On dialogue avec le corps enseignant. Et nous-mêmes, tous les trois, on discute énormément. Dès qu'il y a le moindre petit sujet, on discute, on élabore autour. Et puis ensuite, on digère. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que c'est dans la parole, c'est dans le dialogue qu'on règle ces petites difficultés. J'ai l'impression qu'il y a un regard bienveillant quand même de la part des gens. D'ailleurs, il y a un contraste entre la manière dont on peut présenter l'opinion publique à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Oui. Et moi, ce que je vis tous les jours, où les gens ont un regard tendre. Parce qu'ils voient tout simplement des parents qui aiment leurs enfants et qui ont envie d'être libres avec ce statut de parentalité et qui voient des enfants qui sont heureux finalement, qui vivent heureux comme leurs camarades. On organise des anniversaires. Et il y a beaucoup de petits copains et copines qui viennent aux anniversaires.
Vous n'êtes pas boycottés,
pas du tout.
Sacha est invité, Sophia est invité aussi aux anniversaires.
Sacha est très mondain.
En plus, Sacha, oui, il est mondain, il aime effectivement, il est très sociable. Voilà.
Disons qu'après, ça, à l'échelle de notre village, clairement, tout se passe bien. Après, c'est déjà arrivé effectivement que des fois il y a des regards, qu'il y a des fois il y a des questions. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours très agréable. Fred le gère beaucoup mieux que moi. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, alors que c'est pas fait méchamment, hein, mais bon, c'est arrivé que quand on aille manger au resto, que quand on aille à la piscine, que quand on fasse des sorties dans des endroits où il y a un peu de monde, effectivement, de voir deux hommes avec deux enfants, on sent des regards. On sent des regards qui sont pas forcément méchants, mais on sent des regards. Mmh. On sent que ça questionne, on sent que ça attise une certaine curiosité. Après, c'est arrivé aussi donc du coup que des gens viennent nous voir directement et nous posent des questions. Ce sont bien vos enfants? Comment les avez-vous faits? C'est bien les vôtres? Qui est le père biologique de qui? Alors c'est vrai que Fred est beaucoup plus pragmatique que moi, parce que moi, si c'était moi, je pense que je regarderais la personne avec des dents et je tournerais la tête.
Parce qu'elle se rend pas compte du côté
mais
intrusif.
Pas du tout, mais pas du tout.
Et la question.
Moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus dur dans ma façon de gérer, mais heureusement que Fred est là pour la communication.
Pour gérer tout ça.
Oui.
Ah, surtout que les modèles, ils évoluent. Parce que là, tu disais, la famille traditionnelle nucléaire, elle change. Aux États-Unis, maintenant, la famille traditionnelle, elle est minoritaire. En France, j'ai des chiffres de 2021, 66% des familles sont dites traditionnelles, donc avec deux parents et des enfants. 25% c'est monoparental et 9% c'est des familles recomposées. Mmh. Il y a aussi les familles adoptives, mais ça, elles n'est pas considérées dans ces études, mais elles existent aussi. C'est ces quatre types qu'on peut trouver en France, quoi.
Moi, je suis un enfant des années 90 et nous, on était beaucoup des enfants de parents divorcés, par exemple, avec des familles recomposées. Donc, c'était déjà d'autres formes de parentalité, je pense. Donc, au final, on se dit que la parentalité, ça correspond à quelque chose d'assez rigide et tout ça. Mais au final, c'est quelque chose qui a changé il y a déjà bien longtemps. On aimerait que ça reste dans ce versant un petit peu traditionnel, mais c'est quelque chose qui a déjà commencé à bouger dans les années 90 et même bien avant, je pense.
Non, puis d'autres types de familles, ça existe, sauf qu'on ne les voit jamais, on ne veut pas les voir. Et c'est bien de vous inviter pour montrer que... Il y a d'autres possibles, et en plus qui sont possibles, on va dire, dans la loi, parce que vous n'avez pas forcément eu beaucoup de problèmes à créer ce cadre qui n'est pas forcément dans les normes.
Oui, tes chiffres sont bluffants d'ailleurs, parce
ouais,
que
je ne m'attendais pas non
ça
plus.
Ça recadre, hein. et c'est important de les citer, parce que finalement, on a une vision, on a une perception, un spectre, avec une coloration très traditionnelle et très archaïque, finalement, du monde dans lequel on vit. Et simplement de présenter ces chiffres, tout de suite, eh ben, ça peut rassurer énormément de monde qui vit soit ces modèles de famille, soit qui a en tête ce
aspire.
Projet. Voilà, exactement.
Bien sûr.
Moi, je veux juste rebondir sur le mot traditionnel, c'est le fait de mettre famille et traditionnel derrière, parce que c'est vrai que présenté comme ça, mais nous, on n'est peut-être pas un modèle de famille traditionnel, mais après, nos enfants ont une éducation traditionnelle. Ça ne change rien à leur vie. Ils ont une vie traditionnelle avec... ils vont à l'école comme
oui,
tous les enfants. Ils regardent des dessins animés comme tous
les
enfants. Ils aiment les pâtes comme tous les enfants. Et donc,
comment
je veux dire,
ça finalement... marche dans votre quotidien, justement? Parce que c'était ma question initiale. Vous êtes deux, mais il y a Laura qui n'est pas loin. Comment vous partagez ce temps? Comment vous avez construit ça? Parce que ça aussi, c'est l'objet de discussion, je pense, d'organisation, comme pour tout le monde. Vous avez réussi simplement à mettre en place ces moments? Comment ça se passe?
Oui, oui. C'est un... En fait, on fait une semaine sur deux. C'est organisé entre nous.
Depuis le début.
Voilà, aucun juge n'est intervenu. Ça s'est fait en bonne intelligence. Laura travaille de nuit. Elle a une organisation particulière liée à son travail. Du coup, les nuits sont à la maison.
Elle nous les ramène tous les soirs.
Voilà, elle nous les ramène tous les soirs. Simplement, on compense. Donc, tous les dimanches soirs, ils dorment chez leur mère. Et elle va les chercher tout le temps à l'école. Même la semaine, quand c'est notre semaine, parce que comme il passe la nuit à la maison, voilà, donc il y a un équilibre qui s'est fait dans le temps, naturellement. Parfois, c'est assez drôle, mais effectivement, Sylvain disait qu'il y a juste un bois qui sépare nos maisons. Donc, je l'appelle et les enfants traversent, il y a un peu de distance, hein, les enfants traversent le bois. Tout seul, ils sont contents, ils traversent le bois et puis ils se retrouvent et donc quand elle réceptionne les enfants on raccroche. Voilà, il y a vraiment, ça s'est fait spontanément cette organisation, hein. Dans l'intérêt tout le temps des enfants, c'est-à-dire on a toujours recherché le bien-être, l'équilibre l'équilibre des enfants et puis on vient se voir quand on en a envie. Laura vient à la maison, alors on ne s'invite pas à manger, parce qu'elle vient, elle prend son café, on discute.
Elle se sert chez nous, on se sert chez elle, on est assez libre, elle est assez libre avec nous, on est libre avec elle, enfin, on est une famille.
Ah, puis comme vous dites, c'est temps de discussion ensemble pour bah, du coup, choisir
oui.
ensemble ce qui se passe pour les enfants, les décisions, donc ça c'est bien d'avoir ce...
Toujours, toutes les décisions sont prises à trois, et ça c'est important.
Oui, toutes les décisions importantes.
Oui, 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 bien sûr, c'est sûr.
Tu l'as bien en rouge ou en jaune
Les décisions du quotidien.
Ah, remarque, des fois, on n'est pas loin.
Le fashion faux pas, bien sûr.
Exactement.
Est-ce que depuis que vos enfants sont là, il y a quand même eu des périodes de doute pour vous, personnellement, des périodes où c'était pas évident, où vous avez peut-être atteint vos limites, parce que humainement, c'est quelque chose qui arrive, quoi. Et qui a trait à la parentalité, des limites qui vous sont propres, mais peut-être qui parleront à d'autres gens, des choses que vous n'aviez pas anticipées avant.
Je pense que... Bah, j'aurais tendance à penser que ce sont les mêmes que celles qui sont vécues par des parents hétérosexuels. C'est-à-dire que des fois on a envie de coller son gosse contre un mur parce qu'on n'en peut plus
Bah, ils ont tout le temps de l'énergie, donc c'est
blague
pour ça
à part,
aussi.
C'est, je crois que voilà, c'est parfois on est fatigué, parfois on a marre de répéter, parfois
on en a marre qu'ils veuillent pas goûter la nourriture qu'on a cuisinée pendant 2 heures avec voilà. amour, avec l'ingrédient secret.
Parfois on trouve arrogant qu'ils ne reconnaissent pas notre implication, mais ce sont des enfants. Non, il y a pas de, de difficultés fondamentales, c'est vraiment des difficultés du quotidien liées à l'éducation, mais comme n'importe quel parent, je crois.
Moi, des doutes, oui, je disais, j'en ai eu tout à l'heure avant la naissance de Sacha, qui se sont donc pris fin quand il est né. Quand on a eu Sophia, ça a été en sens inverse par rapport à Sacha. Moi, j'ai pendant la grossesse de Laura, j'ai attendu ça avec une hâte. Je pense que je m'étais monté quelque chose de fabuleux. J'allais revivre ce que j'avais vécu avec mon premier enfant. Et c'est vrai que je l'ai vécu différemment. Et je sais pas, les 3 premiers mois ont été compliqués pour moi après la naissance de Sophia. J'avais l'impression de pas savoir m'y prendre. J'avais l'impression de pas savoir l'aimer comme il fallait. J'avais l'impression qu'elle me prenait du temps par rapport à mon premier enfant. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on a un deuxième enfant, on a le premier qui est là. Et j'avais l'impression de ne pas réussir à gérer ce temps-là. À pas savoir bien partager, parce que le premier enfant passe du statut d'enfant unique à un enfant avec du temps à partager avec sa sœur, pour le coup.
Et c'est mais qu'il faut rassurer peut-être, parce
oui.
que bah voilà.
Et oui. moi, ça me culpabilisait beaucoup vis-à-vis de lui. Alors après, voilà, ça m'a culpabilisé. J'ai eu l'impression de lui imposer quelque chose qui ça s'est réglé après dans le temps. Encore une fois, en parlant beaucoup, avec Fred, avec Laura, avec mes amis aussi. Femmes qui elles aussi m'ont dit que quand elles ont eu leur deuxième enfant ça s'était passé un peu de la même façon, donc encore une fois c'est rassurant, mais encore une fois c'est dommage d'attendre que ces choses là arrivent pour en parler, surtout quand on a en face de nous des femmes qui des fois s'érigent un peu, pas en mère exemplaire, mais qui donnent un peu cette impression là des fois, on est un peu en admiration devant ses amis quand on les voit avec leurs enfants, c'est un peu un modèle. Et c'est vrai que quand on n'y arrive pas soi-même dans l'intimité, c'est culpabilisant.
Mais ça, tu vois pas ce qu'il y a derrière aussi. Hein.
Exactement, après, on le sait en parlant, en fait.
Il y avait un docu, justement, sur les mères pas parfaites qui racontaient tous les trucs de quand j'ai envie de claquer mon gamin, qui m'énerve, que j'ai pas le temps, que je suis crevé, que j'en ai marre. Et pour retirer ce mythe de la mère parfaite qui fait tout bien, sauf que, en fait, on est des êtres humains, que les gamins, ils ont une énergie de ouf et que ça s'arrête jamais. Et que du coup, heureusement qu'on est plusieurs à gérer ça, d'où la famille. Et qu'il ne faut pas non plus oublier non plus soi. Et là, ce que tu racontes, c'est un papa blues habituel, en fait,
que
je pense que beaucoup de parents ont vécu, quelle que soit leur sexualité ou le type de famille qu'ils peuvent avoir.
Je pense aussi, oui.
Fred, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, il y avait aussi la question de, je ne sais pas si tu te souviens, Sylvain, la littérature jeunesse, les livres pour enfants.
Ah oui, je me rappelle.
Ça a été un moment un peu compliqué pour moi. Sylvain voulait pas mal intégrer quand même de... J'avais pas compris ça au départ. Pour moi, on était une famille et le fait qu'on soit homosexuel, deux hommes, mariés, enfin, il n'était pas un élément caractéristique de notre famille finalement. Et du coup, je voyais pas pourquoi. Et ça a été, c'est vrai que ça a été une période où ça a créé un peu des tensions entre nous. Et ça peut paraître futile comme ça, on se dit, mais c'est quoi c'est... Alors les livres sont importants à la maison pour les enfants, on raconte beaucoup d'histoires, parce qu'on aime beaucoup les récits et ça. Et pour moi c'était important, je sentais que je ne voulais pas mettre quelque chose de connoté, un peu communautaire. Et ça a travaillé, hein, ça a mis du temps. Et aujourd'hui je m'aperçois quand même que c'est fondamental, parce que par exemple Sacha, c'est quelqu'un de très pudique. Sacha, il a une pudeur, il est constitué d'une pudeur. Et on sent qu'on peut aborder les sujets, lui il vit les choses. Par contre, les verbaliser, c'est des fois un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, des fois, on aborde le sujet, voilà, est-ce qu'à l'école, on te parle du fait que tu as 2 papas, qu'est-ce qu'on en dit, etc. Il a du mal un petit peu à en parler. Donc on avait envisagé de passer quelques temps dans des associations homoparentales qui organisent des sorties pour qu'ils voient des modèles. Heureusement, dans notre entourage, on a d'autres modèles. On a aussi la sœur de Sylvain, par exemple, qui a eu un enfant avec son ex-femme. Et des amis aussi, on a aussi des amis qui sont dans cette configuration familiale. Donc, mais Mais c'est vrai que ça avait été un point de...
Bah, disons que, voilà, moi, l'idée, c'était pas évidemment de leur faire une propagande LGBT. J'avais pas du tout ça en tête. Mais je trouvais important que, dans des objets culturels, à un moment, ils puissent se reconnaître, s'identifier. Parce que c'est vrai que dans toutes les histoires, globalement, quand même, c'est papa-maman, quoi. Et moi, je m'étais dit, à un moment, c'est quand même... Enfin, nous, on est papa-maman, et puis il y a un papa-bis, enfin, il y a Dada, il y a moi... Et c'est encore une fois pas par égocentrisme, mais moi je trouve que c'est important de pouvoir aussi à un moment s'identifier dans des objets culturels, parce que moi j'ai grandi dans les années 90 et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était courant, et ça a été un vrai questionnement. Par exemple, moi je parle de mon homosexualité, alors il y avait pas de représentation, et c'est vrai que du coup il y a quelque chose là-dedans qui était culpabilisant d'être ce que je suis maintenant et que j'assume très bien, mais il y avait quelque chose de culpabilisant et qui me semblait anormal parce qu'on le voyait nulle part. Alors l'idée, c'est pas d'en mettre partout, c'est pas de vendre un modèle de vie aux gens, pas du tout, mais c'est juste que tout le monde puisse se retrouver un moment quelque part, d'avoir le choix en fait. Et voilà, et donc de leur expliquer. Alors ça peut passer par les histoires, ça passe aussi beaucoup par la parole en réalité, hein. Les enfants, on leur dit que des types de familles, il y en a plein. Enfin, tout à l'heure, t'en parlais très bien, Morgane, mais combien il y a de mères isolées, par exemple. Et c'est vrai que c'est une chose, on ne demande à personne d'expliquer ce concept-là. C'est quelque chose de très logique pour des tas de gens. C'est vrai que, bon, en plus, deux hommes qui ont un désir d'enfant, ça questionne aussi beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que des hommes aient un besoin comme ça de paternité. Mais c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas soi-même, c'est comme ça, et ça existe. Et il n'y a pas de notion de bien ou de mal là-dedans. Mais pour les enfants, voilà, c'est important. Pour moi, qui est des objets culturels dans lesquels ils puissent se reconnaître.
Et ça, t'en as trouvé ?
On en a trouvé, un peu par hasard.
Ça commence, ça commence.
On va dire peu. Non, mais par contre, on a... Bah, après, on a énormément de bouquins à la maison. C'est vrai que les enfants ont énormément de livres. Mais on n'est pas très branché écran pour les enfants. Donc, c'est vrai que... plus les bouquins, et on a quand même quelques bouquins sur des histoires d'adoption avec... Après, c'est vrai que on n'a pas trop mis le nez dedans non plus, finalement, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quand même un outil intéressant.
C'est un outil qui permet d'entamer des discussions. Mais après, c'est déjà pas mal.
Et dans les bouquins, c'est pas trop stéréotypé. Dans les bouquins, c'est pas trop stéréotypé.
Mais même les stéréotypes, au final, tu peux questionner l'enfant. Qu'est-ce que t'en penses de ça ?
Toi,
c'est parce que tu vis. Donc, on avait fait un atelier
sujet,
là-dessus. C'est pour ça que c'était assez cool dans une médiathèque à Strasbourg. Si ma mémoire est bonne. Je vous propose qu'on aborde une dernière question avant de passer à l'agenda du mois et avant de se quitter. Le futur, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Vous aviez dit que en vous mettant d'accord sur la garde avec Laura, vous n'étiez pas passé devant le juge. Pour le futur, avec les enfants, vous avez même entamé des démarches précises.
Oui, effectivement, on n'est pas passé devant le juge pour la garde. Par contre, on est passé devant le juge pour organiser des adoptions croisées, puisque je suis le père, je suis déclaré à l'état civil comme le père, entre guillemets, naturel de Sacha et Sylvain, et déclaré à l'état civil comme étant le père naturel de Sophia. Et c'était important qu'on ait, je dirais qu'il y ait une consolidation entre Sophia et moi, et entre Sacha et Sylvain. Du coup, on a fait des adoptions croisées. On a demandé l'autorisation, bien sûr, à Laura, qui était complètement d'accord. Enfin, de toute façon, ça n'avait aucun impact, elle, sur son statut. Et voilà, je pensais que c'était une formalité. Je pensais que c'était juste un dossier. On nous avait demandé quand même de quelques témoignages, je crois. Ouais.
Oui.
Mais ensuite, dans le cadre de en cours d'instruction, entre guillemets, on nous a demandé des photographies. Chronologique, pour voir la présence à chaque fois de...
Prouver le foyer.
Exactement, prouver l'existence du foyer. Et puis, on s'est rendu un peu en dilettante avec Sylvain au tribunal. Et là, je me suis dit, ça va prendre 2 minutes et puis le juge va poser un visa. Et non, pas du tout. On a été confrontés. C'est vraiment le mot, complètement confronté. Alors, à juste titre, et je comprends. Et en plus, c'est le tribunal qui est à Soissons. Donc, et le juge a été très clair, m'a dit que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une telle demande, avec une configuration familiale pareille. Il me l'a dit qu'à la fin, parce qu'au départ, c'était plutôt tendu. Et donc, il a fallu expliquer, se justifier. Ils sont rentrés dans des questions très, très intimes. C'était très perturbant, parce qu'on ne s'y est pas attendu du tout. Et finalement, cris de presque un malaise vagal. Voilà, il fallait sortir ses tripes, c'est-à-dire montrer sa vérité. Et c'était un moment fabuleux, en fait. C'est un très beau moment parce que j'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient compris. Ils avaient compris ce qui s'était passé. Alors, juste une parenthèse, eux cherchaient, et c'est légitime, à s'assurer qu'on n'instrumentalisait pas Laura.
Oui, c'est...
Voilà. Qui n'était pas présente, d'ailleurs, parce que nous, on ne savait pas du tout qu'on allait être confrontés
questionné
de cette façon.
Questionnés à ce point-là, ouais.
Non, on ne savait pas.
Vous avez déjà pensé au après, quand les enfants ils seront grands? Comment vous voyez votre parentalité dans le futur?
C'est intéressant que tu poses cette question parce qu'on en a parlé là il y a quelques jours. Quand mes parents sont venus, j'ai vu mes parents cette semaine et ma sœur, et c'est vrai que moi j'ai une famille où on est très complices. On rigole beaucoup ensemble, on parle de beaucoup de choses. Bon, j'ai vécu un super moment. Et c'est vrai qu'on en a parlé le lendemain avec Fred. Et Fred, il m'a dit, ouais, il me dit, j'aimerais bien que ce soit comme ça avec les enfants quand ils sont adultes, qu'on ait cette même complicité. Et ouais, moi, j'aimerais bien aussi. Et qu'on reste comme on est, c'est-à-dire qu'on dialogue, qu'on rigole, qu'on chante, qu'on... J'espère ça.
Donc avec tout l'amour que vous avez l'air de leur donner, ça vous êtes bien parti, quoi. Ça devrait
Merci.
Bien se passer.
Merci.
On l'espère.
Merci.
Je vous ai coupé.
C'est moi, elle balance comme ça des jingles sans prévenir.
Il y en a un. Vous êtes prévenus. Voilà, il y en avait un. C'était pour faire une petite coupure pour vous donner quand même quelques rendez-vous qui auront lieu tout bientôt en ce mois de janvier et au tout début du mois de février aussi, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je vous parle du premier, tu prends le deuxième, Gwen, si tu veux bien. Ce vendredi, alors si vous nous écoutez ce mercredi soir, vous aurez le temps peut-être de vous y rendre. Et si vous nous écoutez pendant la rediff samedi, eh ben trop tard, tant pis pour vous, puisque ce vendredi 19 janvier à la librairie Amaury, il y aura Morgane Giuliani qui viendra présenter son livre « Féminisme au pluriel et musique, la pop de Madonna à nos jours », un ouvrage qu'on a présenté sur Radio Primitive à travers une interview, et vous me retrouverez sur place pour animer le débat. Ça risque
Sans
d'être
stress.
Sympa. Ça risque d'être sympa. Il y aura un petit verre de l'amitié, un petit DJ set assuré par Gustine, et un petit verre de l'amitié après aux trois petits bouchons. Rendez-vous à 19h à la librairie Amaury.
Et l'autre rendez-vous, c'est un rendez-vous du Manège de Reims. Donc ce sera à Sciences Po. Donc il faut juste s'inscrire en amont pour pouvoir participer. Ce sera le 5 novembre à 18h30. Et c'est une conférence sur penser les autres donc dans l'univers de la création. Et alors je ne sais plus les personnes présentes pour la table ronde, mais je sais que les masterclass un peu comme ça qu'organise le Manège à Sciences Po sont toujours assez intéressantes. La dernière qu'on était allé voir, c'était sur les transidentités, qui était très 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 chouette. Donc là, on vous invite à y aller. Pour, si vous êtes curieux et curieuse.
Mais il faut s'inscrire.
Oui, il faut juste s'inscrire parce qu'il y a les vigiles à l'entrée qui vous demandent votre blase.
Voilà, donc vous êtes prévenus.
C'est Sciences Po, ça.
C'est Sciences Po, ça. Merci, Fred.
Oui, merci,
Sylvain, d'avoir partagé votre expérience.
Merci. Je peux rendre un petit hommage à Dédé, qui est le grand-père de mes enfants, de nos enfants, et qui vient de nous quitter.
Oui.
Voilà.
On a une grosse pensée pour lui et
merci.
On vous remercie beaucoup d'être venu présenter votre famille. C'est important de montrer que tout est possible dans la vie. Enfin, tout est possible. Des fois, c'est pas facile, mais en tout cas, ça ne rend pas les choses impossibles. Et ça, il faut que vous aussi, auditeurs, auditrices, vous fassiez, en fait, l'incarnation. Je pense que dans tout, c'est le plus important. Incarner ce que vous voulez voir dans la vie et au moins vous donnerez des idées de possibles que l'on peut faire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour tous s'inspirer et voilà, arriver à fonctionner ensemble sans se juger. Je pars en freestyle. Allez, vas-y. Gwen, t'avais tellement bien commencé que tu vas pas nous laisser sur
Calogero. Pour finir sans regret, on va écouter The Regret, qui est un groupe de punk rock américain, un groupe féministe qu'on définit comme impétueuse et sans excuses, qui ont sorti 3 albums et 2 EP. Et franchement, c'est ma petite découverte du moment. Alors, c'est plus pop que punk rock, mais
c'est
franchement, c'est chouette. J'aime bien.
Allez, salut.
Bisous.